Hector Berlioz est né au début du 19e siècle. Il aura couvert presque l'intégralité de ce siècle. Et là, on peut presque se dire que voilà un compositeur qui est sorti de nulle part. Nulle part au sens où il vient de l'extrême province française, il vient de la Côte-Saint-André. Ne diminuons pas la Côte-Saint-André, mais il n'est pas issu d'un milieu cultivé parisien, il n'est pas issu d'une famille cultivée d'artistes. Son père, nous le verrons, était un médecin, un grand bourgeois provincial. Mais vraiment, tout ce qui a fait que Berlioz est un des plus grands compositeurs du XIXe siècle ne tient qu'à lui. À lui, à sa personnalité, à son goût pour la musique, à une opiniâtreté considérable. Et nous verrons qu'il a inventé vraiment beaucoup de choses. Il a participé à la vie musicale et il a participé à la création de la musique romantique. Nous allons évidemment commencer par l'œuvre qui fait symbole avec lui, la symphonie fantastique, avec notamment le mouvement qui s'intitule La Valse, mais nous verrons plus tard que cette œuvre est la démonstration et l'application du romantisme pur, de l'invention, de la création individuelle et de l'opiniâtreté d'un homme. Écoutons La Valse de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz.
Thank you. Berlioz est né le 11 décembre 1803 à la Côte-Saint-André, petit village dans l'Isère. Et vous pouvez vous y rendre à l'occasion, puisque sa maison natale est devenue un musée. Et il est né dans une famille qui n'est pas très musicienne. Son père est un médecin réputé, reconnu, dont on dira qu'il est le précurseur de l'acupuncture en France. C'est un esprit libre, éclairé, qui donne à son fils une éducation, on va dire, tout aussi éclairée, et qui sent, bien sûr, ses sentiments innés presque pour la musique, et puis ses dons. Et donc son père lui donne malgré tout une petite éducation musicale. Il apprend le flageolet, qui est un instrument avant à ne pas confondre avec le légume. Il apprend la flûte, il apprend la guitare, mais son père veille à ce qu'il n'apprenne pas le piano, car lorsqu'on veut être compositeur, c'est vrai que l'apprentissage du piano, ça aide beaucoup au niveau de l'harmonie, bien sûr. Et donc, il ne rentrera en fait, parce qu'après s'être inscrit à la faculté de médecine, bien sûr, il ne rentrera à l'école, au conservatoire, qu'en 1826, abandonnant la médecine au grand désespoir de son père. Et là, il aura des maîtres prestigieux de l'époque, Le Sueur, Reicha, qui sont de très très bons musiciens et des compositeurs d'opéra et d'œuvres diverses qui lui apprendront bien sûr l'harmonie, le contrepoint, la fugue, enfin tous les secrets de composition de la musique. Conservatoire 1826, il a 23 ans, donc il est relativement âgé. Et puis il va s'échiner à se présenter au concours du Prix de Rome, qui est en France un prix évidemment extrêmement prestigieux. Il ne l'aura qu'à la cinquième tentative. Les autres œuvres qu'il présente sont jugées inaudibles ou en tout cas difficilement jouables. Et il l'aura pour la cinquième fois. Et plus tard dans sa vie, il dira « En fait, je n'ai postulé pour le Prix de Rome que pour montrer à mon père et le convaincre que ma destinée, que ma passion, c'était la musique et que j'étais capable de composer des belles œuvres reconnues. » Donc c'est pour, et son père reconnaîtra lui-même à la fin de sa vie qu'il est très heureux que son fils lui ait montré qu'il s'était trompé et qu'il s'était entêté inutilement à vouloir faire de lui un médecin alors que ce n'était pas sa vocation. Donc, nous allons écouter un autre extrait de cette symphonie fantastique, qui est vraiment fantastique pour l'époque. C'est la Marche au supplice, symphonie donnée en 1830, qui sera un très grand succès.
Nous avons avec Berlioz la personnalité romantique par excellence. Voilà quelqu'un qui a tout d'abord une très forte personnalité. À l'évidence, l'avenir le consacrera et le dira. Il a une puissance musicale considérable, c'est un génie, il est très inventif, mais en son temps, il fut un combattant contre le conservatisme, un combattant contre les illettrés, un combattant contre les gens qui ne voulaient pas de nouveautés. C'est un combattant. Et alors, s'il y a quelque chose qu'il sait faire, c'est combattre. Donc il va, toute sa vie, aller de combat en combat, imposer son style avec beaucoup d'échecs, et c'est finalement, on peut le dire, un siècle plus tard qu'il va être parfaitement reconnu. En son temps, il a eu des succès, en son temps, il a écrit, il a publié beaucoup dans la presse, il a été à l'origine de nombreux pugilats. Il est vraiment dans son temps et dans son temps dans la critique, dans l'opposition et dans l'affirmation de son individualité. On va le retrouver toujours dans cette magnifique symphonie fantastique, œuvre à programme. Œuvre à programme, c'est le siècle qui veut ça aussi. Déjà, Hind, et on le retrouve presque chez Bach, avait initié cette idée que la musique pouvait raconter une histoire, pouvait parler de la nature, pouvait exprimer quelque chose de total. Liszt, bien sûr, dont nous avons parlé, a été l'auteur de poèmes symphoniques sur des thèmes, mais je dirais que presque aujourd'hui, Berlioz est celui qui a vraiment symbolisé cette idée de musique à programme. Écoutons donc maintenant La nuit de sabbat, toujours dans la symphonie fantastique. Thank you.
Hector Berlioz va donc connaître le succès, quelques échecs, mais aussi de grands succès dans cette symphonie fantastique qui dénote complètement, évidemment, dans le paysage musical avant lui et même contemporain, tellement son inspiration est fantasque, elle est large. Hector Berlioz n'aime pas les petits ensembles, il aime les grands orchestres, il compose des pièces où il y a quatre harpes, enfin, c'est un esprit très, très, très passionné. Et il devient un compositeur reconnu, alors il fréquente bien sûr les salons de l'époque, il écrit avec une plume un peu acide dans une revue musicale. Il rencontre évidemment tous les grands de l'époque, non seulement musiciens, Liszt, Mendelssohn et bien d'autres, mais il rencontre aussi Balzac, Flaubert, enfin tous les grands, Hugo, tous les grands écrivains. Il va aussi mener une carrière de chef d'orchestre, j'expliquerai pourquoi, et lui-même l'explique dans ses mémoires, et il va parcourir l'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin toute l'Europe, et il va aller jusqu'en Russie sur la suggestion de Balzac, qui lui dit « tu devrais aller en Russie parce que voilà, tu auras du succès ». Et il remporte des triomphes en Russie, voilà. Et il va donc composer bon nombre de pièces. Nous allons écouter un extrait de sa symphonie concertante pour alto, qui date de 1834, qui s'insère dans l'œuvre qui s'appelle « Harold en Italie »,« Sérénade d'un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse ». Et voilà cet extrait magnifique avec l'alto. Thank you.
Nous sommes au 19e siècle. On peut difficilement aujourd'hui imaginer la vie culturelle à l'époque. En fait, le monde est grand, le monde est petit. Berlioz est ami avec les grands de son époque, avec notamment Balzac. En fait, tous les grands artistes, quelque part, sont aimantés. Ils se retrouvent. Et on voit que les grands, comme Shakespeare, sont admirés par tous. Berlioz va s'en inspirer, va écrire en utilisant les œuvres de Shakespeare. Berlioz va traverser l'Europe. Il sera peu reconnu, ou en tout cas fera l'objet de beaucoup de polémiques en France, mais il sera adulé en Russie, il sera produit en Russie. Donc on voit que ce monde est à la fois grand et petit, et tous les artistes qui finalement nous retrouvons aujourd'hui sont en lien et s'estiment. Flaubert, Balzac, Berlioz, tous ces personnages artistiques qu'aujourd'hui nous reconnaissons et nous aimons, eh bien ils se connaissent, ils travaillent ensemble, ils se côtoient, ils fréquentent les mêmes salons. Nous allons maintenant écouter le Carnaval romain, l'ouverture, fruit aussi de la littérature de l'époque, et écoutons cette œuvre magnifiée par Berlioz.
Victor Berlioz, je l'ai dit, va être un grand chef d'orchestre. Il va jouer, il se considère comme un classique. Et il vénère, comme d'autres, Beethoven notamment. C'est pour lui, lorsqu'il était jeune, ses œuvres une révélation absolue, qui l'ont décidé définitivement à embrasser la carrière musicale. Et donc il dirige à la fois par obligation, parce qu'il trouve que ses œuvres sont mal interprétées, que les musiciens d'orchestre de l'époque n'ont pas toujours la compétence ou la discipline qu'ils ont évidemment dans nos orchestres modernes. C'est un petit peu la foire parfois. Et à ce sujet, il écrit ses mémoires. Elles sont publiées en 1849. C'est assez truculent. Elles sont en deux tomes, vous pouvez les lire avec intérêt parce qu'il y a ses mémoires et puis il y a toute l'ambiance de l'époque. Et il explique qu'effectivement, il décide à un moment donné de jouer ses propres œuvres qui sont effectivement tout de même très, très, très complexes, très charpentées, avec des effectifs de musiciens extrêmement importants. Ça se trouve chez Garnier Flammarion, c'est vraiment à lire parce qu'il y a des passages qui sont extrêmement amusants et il raconte des anecdotes extrêmement amusantes. Le hasard a voulu également que la célèbre, excellente revue de musique dite classique Diapason sorte ce mois de juin 2024. Un numéro un petit peu spécial et un article assez long consacré à la musique à Paris au siècle romantique. Nous ne savions pas que cet article, évidemment, allait sortir lorsque nous avons choisi de nous consacrer à Berlioz. C'est extrêmement intéressant à lire parce qu'on voit toute l'ambiance musicale, sachant que Berlioz a embrassé tout le romantisme musical de la France, en fait. Et il a connu, né en 1803, il est né avant Chopin, avant Liszt, avant Mendelssohn et d'autres, et il les a tous pratiqués et tous connus, et c'est extrêmement intéressant. Victor Berlioz va décéder le 8 mars 1869. Il est enterré au cimetière Montmartre avec ses deux épouses qu'il avait épousées, une actrice et puis une cantatrice. Et il repose à leur côté. Et dans son testament, c'est touchant, il a fait une petite pension. Il a décidé de verser une petite pension à Estelle Duboeuf, son premier amour qu'il a rencontré à 12 ans. Voilà, et ça n'a pas prospéré, mais il n'a jamais oublié cette jeune fille qui à l'époque, avait 17 ans. Voilà, nous allons écouter maintenant un extrait de l'oratorio qui s'appelle « L'enfance du Christ », qui est fondé entre autres sur l'Ancien Testament, une trilogie pour solistes, chœur et orchestre, l'adieu des bergers à la Sainte Famille avec des effectifs effectivement considérables, qui a été dirigé en 1854 par Berlioz lui-même, avec le songe d'Hérode, la fuite en Égypte et l'arrivée à Saïs. Voilà ce très bel extrait composé par cet homme absolument passionné, dont son premier biographe Adolphe Bochot disait que c'est une vie d'aventure, d'amour, de suicide, d'extase, de rugissement, de douleur, une lutte pour l'argent, la misère et la ruine, les triomphes enivrants, les chutes volcaniques, l'aspiration à l'idéal, la hantise de la mort. Bref, c'était un homme un peu comme sa musique, qui embrassait la vie à pleine brassée. Voilà, et ce biographe finit en disant « En fait, il n'a rien manqué à Berlioz pour vivre une vie complète et pas même les illuminations du génie pour être le héros le plus représentatif du romantisme français. » Écoutons cet extrait, « L'adieu des bergers ». Thank you.
Venons-en maintenant à ces deux grandes personnalités qui ont traversé le XIXe siècle, Hector Berlioz et Franz Liszt. Vous connaissez au fur et à mesure de nos émissions l'attachement que Paul et moi portons à Franz Liszt, qui a été probablement, à côté du fait d'être un très grand musicien, un génie du XIXe, l'homme qui a su produire la musique de ses contemporains, ne jamais se tromper sur le génie des uns et des autres, refuser les rivalités, être au-dessus de tout ça, et donc, ce faisant, il a produit Berlioz. Lorsque Berlioz était en proie au conservatisme à Paris qui faisait qu'il n'était pas produit, et bien Berlioz le produisait. Ce fut le cas pour Béatrice et Bénédicte. Berlioz le jouait à Weimar. Berlioz voulait qu'il soit d'ailleurs titularisé à Dresde et à Weimar. Berlioz était vraiment la personnalité du XIXe siècle qui savait reconnaître les grands compositeurs et qui savait les promouvoir, qui savait les aider lorsqu'ils en avaient besoin. Bien sûr, ils eurent non pas des rivalités artistiques, car l'un et l'autre étaient au-dessus de tout ça, mais forcément des visions différentes de la musique, encore que beaucoup les rapprochaient. Nous avons déjà parlé de la musique à programme, dont ils étaient les artisans tous les deux. Mais nous avons là deux personnalités qui savaient reconnaître les qualités, voire le génie de l'autre. Berlioz d'ailleurs adorait le pianiste qui était Liszt, il l'admirait. Liszt a d'ailleurs transcrit la symphonie fantastique, ce qui est quasiment improbable et très difficile. Je vous invite à l'écouter dans la version unique qu'a produit François-René Duchappe, qui venait souvent nous voir dans les décennies passées au théâtre de Bourg-en-Bresse, aux Amis de la musique. Donc écoutons maintenant une autre œuvre de Berlioz, le Te Deum, le Rex Gloria. Nous procéderons dans la prochaine émission aux émissions sur les opéras de Berlioz, mais là nous conclurons par ce Rex Gloria.
Thank you.
Nous avons écouté au cours de cette émission, bien sûr, la symphonie fantastique, avec trois épisodes. On peut vraiment parler d'épisodes, puisqu'il s'agit de musique à thème, de presque d'un poème disserté. Donc la valse d'abord par l'Orchestre National de France dirigé par Leonard Bernstein, puis la marche au supplice par l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège avec Christian Arming, à nouveau Leonard Bernstein dans la même version pour le songe d'une nuit de sabbat, ensuite Harold en Italie dirigé par ce grand chef d'orchestre anglais qui a beaucoup promu la musique française à la tête du London Symphony Orchestra pour jouer Harold en Italie. Ensuite, le Carnaval romain, dirigé par Jukka-Pekka Sarsat. Ensuite, l'Adieu des bergers de l'enfance du Christ par André Cluytens, grand chef d'orchestre du XXe siècle en France, à la tête de l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire. Puis l'hymne du Te Deum par Nicolas Bartolomé Orchestra, l'Orchestre de Paris. Et notre prochaine émission sera toujours consacrée à Berlioz et ses œuvres lyriques. À très bientôt. Merci de votre écoute.